talmudique. Dans l'épisode du buisson ardent, Moïse ne voit pas immédiatement le prodige de ce buisson qui brûle sans se consumer. Mais, dit le texte, il se détourne pour voir. Sar mina derer. Et il demande pourquoi, madoua, pourquoi le buisson brûle et n'est-il pas consumé? C'est alors qu'a lieu la révélation d'un Dieu qui s'adresse à lui personnellement et l'appelle Moïse, Moïse, et Moïse répond, me voici. Ainsi voir nécessite un détour, un temps d'arrêt, une manière différente de marcher, de questionner, de s'étonner. Mais le mouvement de la vie, la folle allure que nous évoquions la semaine dernière, est peu propice à ces moments de pause, ces temps de tranquillité qui rendent plus disponible le regard et l'étonnement, prémisse d'une possible révélation, d'un sentiment de retrouvailles avec soi-même, où l'on se sent appelé et invité à une transcendance, à une découverte pour soi d'un autre monde, d'autres chemins pour orienter sa propre existence. Et même si nous décidions de prendre le temps de ce détour, vers quel lieu se tourner, se détourner? Les réponses sont nombreuses et dépendent de chacun de nous. Mais peut-être qu'aujourd'hui, l'on peut considérer qu'entrer dans un musée serait une façon privilégiée de se détourner pour voir, pour retrouver la force et l'acuité du regard, c'est-à-dire se défaire de l'image, c'est-à-dire apprendre à entrer dans l'image pour ne pas en être captif. Oui, pousser les portes d'un musée serait en quelque sorte découvrir des œuvres qui, tout comme le buisson biblique, brûlent sans jamais se consumer, car toujours renouvelées par les interprétations qu'elles suscitent. Comme le soulignait Roland Barthes, interpréter une œuvre, ce n'est pas lui donner un sens plus ou moins fondé, plus ou moins libre, mais au contraire, d'apprécier de quel pluriel elle est faite. Et Barthes ajoutait qu'une œuvre est éternelle, non parce qu'elle impose un sens unique à des hommes différents, mais parce qu'elle suggère des sens différents à un homme unique. Ces réflexions expliquent aussi peut-être pourquoi, à moins d'un an d'intervalle, Talmudique consacre une seconde émission à l'œuvre du peintre Jules Adler, 1865-1952, dont le musée d'art et d'histoire du judaïsme propose une impressionnante et magnifique rétrospective jusqu'au dimanche 23 février 2020, qui nous fait découvrir un artiste qui eut conscience de son temps, mais qui fut aussi une conscience de son temps. Et pour faire plus ample connaissance avec cette œuvre et cet artiste, j'ai le très grand plaisir de recevoir Claire de Combes, conservatrice en chef chargée des collections historiques et des judaïcas au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui, avec Amélie Lavin, directrice du musée des Beaux-Arts de Dole, et assistée de Virginie Michel, a conçu cette exposition. Claire de Combes, bonjour.
Bonjour.
Claire de Combes, après le musée de Dole, le palais Lumière à Évian et la piscine à Roubaix, le Mage présente cette exposition, cette fois-ci intitulée Jules Adler, peintre du peuple. En quoi le millésime parisien est-il différent de ce que l'on a pu voir dans les autres lieux que je viens d'évoquer? Pourquoi ce choix de peintre du peuple, alors que Jules Adler s'est fait connaître par une autre expression qu'il a lui-même adoubée, si l'on peut dire, et qui est aussi le titre d'une des parties de l'exposition parisienne, le peintre des humbles? Mais avant tout, qui est Jules Adler, Claire de Combes?
Alors, Jules Adler est né à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, dans une famille d'origine juive alsacienne, une famille de petits boutiquiers, donc il n'était absolument pas prédestiné à devenir un grand artiste. Et là, on voit toute la méritocratie républicaine à l'œuvre. Et à l'âge de 17 ans, donc il est parti poursuivre ses études à Paris avec toute sa famille qui l'a soutenu. Et ce qui est important de comprendre dès le départ, c'est que c'est un artiste qui a eu une très longue vie. Il est mort à plus de 87 ans en 1952 et qui donc a vu le siècle se dérouler et qui a même connu trois guerres. Alors effectivement, comme vous l'avez signalé en introduction, c'est la quatrième étape d'une exposition, mais que le Mage a adaptée en fonction de ses propres questionnements. Donc vous ne verrez pas la même exposition, et si vous l'avez déjà vue précédemment, nous vous invitons à revenir. Alors qu'est-ce qui change à Paris? Je dirais que, alors déjà, il y a à peu près un tiers d'œuvres qui sont nouvelles, qui sont donc et d'ailleurs complètement inédites, et une approche un peu différente, c'est-à-dire que le mage a davantage insisté sur la personnalité d'Adler, son milieu d'origine, et également des thèmes liés à sa judéité. Et nous avons donc rajouté trois parties, alors qui étaient partiellement traitées dans le catalogue pour deux d'entre elles, à savoir l'affaire Dreyfus et la question de savoir qu'est-ce que ça signifiait exactement un peintre juif, mais également toute une partie sur la période de la Seconde Guerre mondiale et son internement à l'hospice de Picpus. Donc une exposition qui est assez différente, également dans la conception de sa médiation avec le public, que nous avons voulu la plus facile et la plus accessible à tous. Et d'ailleurs, je pense que c'est une exposition qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et nous avons d'ailleurs conçu avec le service pédagogique un livre et jeu pour les enfants. Et donc, nous invitons à venir voir ce...
En famille.
En famille, voilà. Et nous avons changé le titre, donc, puisque cette exposition s'appelait Jules Adler, un peintre peindre sous la Troisième République, qui nous a semblé un peu décalé avec notre approche. Et nous avons préféré donc cette appellation de peintre du peuple. Alors, pourquoi peintre du peuple au lieu de peintre des humbles? Il est vrai qu'on s'est posé la question, parce que ce mot humble est très beau, loin de nous donc de le rejeter. Et c'est effectivement sous cette appellation qu'Adler était couramment désigné. Mais on avait peur qu'aujourd'hui, il soit perçu avec une note de passivité ou de tristesse ou quelque chose. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça l'œuvre d'Adler. L'œuvre d'Adler n'est absolument pas misérabiliste et elle montre aussi un peuple maître de son destin. Voilà, donc pourquoi nous avons choisi ce changement. Mais Adler, c'est vraiment l'anti-peintre mondain, un artiste qui est sensible aux couches populaires dans leur globalité, hein, qu'il s'agisse des ouvriers, des vagabonds, des paysans, des marins, hommes, femmes, enfants. Donc toutes les palettes, je dirais, de ce peuple.
Les humbles, les simples, mais aussi ceux qui ont besoin de justice. Je pense à l'engagement d'Adler dans l'affaire Dreyfus. Dans une lettre pour expliquer sa démarche, il écrit qu'une œuvre est éternelle que si elle est traversée par un frisson d'humanité. Et dans presque tous ses tableaux, il y a même au milieu d'une foule un visage qui regarde. Hors cadre, le peintre ou le futur spectateur de cette œuvre, on pourrait dire qu'il fut un peintre des visages, de ceux qui, fragiles, en appellent à notre aide d'une façon ou d'une autre, Claire de Compse.
Alors Adler est effectivement un peintre foncièrement engagé dans sa vie, à la fois d'artiste et sa vie quotidienne. Et comme vous le soulignez, c'est un Dreyfusard de la première heure, hein, qui signe toutes les pétitions du temps et dont l'atelier est un lieu de rencontre des Dreyfusards. Il va notamment rencontrer Bernard Lazare, Steinlein. C'est un grand admirateur de Zola, même si on ne sait pas. On peut pas dire que c'était forcément un intime de Zola, mais en tout cas, ça se voit à la fois dans son œuvre et dans son engagement. Donc, quelqu'un qui est sensible à toutes les formes d'injustice et qui ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Et il nous paraissait aussi important de rappeler que c'est pas parce qu'on est juif qu'on est forcément Dreyfusard. Hein. Beaucoup d'Israélites français, comme on disait à l'époque, avaient peur en fait que cette affaire remette en cause leur intégration. Et donc ce n'est pas du tout le cas d'Adler, qui s'engage donc dès les premiers instants. Alors effectivement, un peintre des visages, et je dirais aussi un peintre de la rencontre. Adler est moi je trouve que c'est ce qui ressort de manière le plus saisissante quand on voit ses tableaux, c'est un peintre qui manifeste une immense empathie pour ses modèles. Et c'est un peintre qui prend le temps de la rencontre. Et là d'ailleurs, je trouve que ça fait écho à ce que vous disiez dans votre introduction, cet appel à ralentir, à regarder. Adler ne se contentait pas de peindre. Il s'intéressait réellement à ses modèles. Il leur demandait de raconter leur vie. Et on voit qu'il ne se mettait pas du tout dans une position surplombante. Il y avait un vrai temps, une vraie relation. Et ça ressort de manière évidente. Et cet accrochage, je l'espère, rend compte de cette proximité d'Adler avec ce peuple et nous invite aussi à, nous aussi, participer à cette rencontre.
Peintre du peuple, peintre proche du peuple. Vous me disiez hors antenne que certaines personnes qui en parlaient, on avait l'impression qu'ils l'avaient rencontré.
Oui, oui, tout à fait. Là, je faisais une allusion d'ailleurs personnelle, où je parlais d'Adler et où on m'a dit « mais tu le connais comment ? C'est un de tes amis ?» Et pour dire qu'on ne peut pas rester indifférent à la personnalité d'Adler. Et d'ailleurs, vous verrez dans l'exposition, il y a des photographies qui montrent que c'est un personnage qui rayonne de bonté, aussi de malice, un personnage qui vraiment dégage quelque chose de très fort sur le plan humain et donc une personnalité, je dirais, lumineuse et libre.
Alors j'aimerais qu'on en parle aussi un peu de son style. Il disait qu'il était un réactionnaire très en retard, Claire de Conf. La formule mérite commentaire.
On le rattache généralement à la seconde génération naturaliste, donc dans la lignée des peintres de la réalité comme Courbet, Millet, Bastien Lepage. Et effectivement, ça va être un peintre qui va être essentiellement préoccupé par des sujets de son temps et donc la peinture du monde dans lequel il vit. On distingue aussi d'autres influences, mais je dirais que ce qu'on remarque aussi avec Adler, c'est que les questions stylistiques ne sont absolument pas essentielles pour lui. On voit différentes influences d'une œuvre à l'autre, et en tout cas, il ne cherche absolument pas à coller au mode du temps. Hein, il rentre au Salon d'automne, il est dans les membres fondateurs du Salon d'automne, et il va démissionner au moment où ça devient le lieu, en fait, de la modernité. C'est pas un peintre d'avant-garde. Et effectivement, il y a une citation tout à fait remarquable à un de ses amis peintres, Anicott, où il dit « Tu as beau être d'opinion et de tendance très avancée, tu n'es plus comme moi qu'un vulgaire pompier. La sculpture devient cubiste, le meuble le suit, nous sommes des réactionnaires très en retard. » Donc on voit qu'il en a conscience, mais que c'est totalement assumé. C'est pas important pour lui, c'est un homme libre qui suit son chemin et qui ne cherche pas à rentrer dans un courant. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très réducteur, toutes ces étiquettes, et qu'il faut aller au-delà et donc revenir voir cette œuvre.
Une œuvre haute en couleur.
Exactement. Alors, avec une évolution, effectivement, au cours de sa vie, il passe d'une palette très sombre, très épaisse, à une palette qui va s'éclaircir au cours de son existence, effectivement.
Chaplin, Les temps modernes, 1936, musique de la dernière scène. Les temps modernes pourraient être le titre d'un tableau ou d'une série de tableaux de Jules Adler, car Jules Adler, en dehors des humbles que nous venons d'évoquer, peint la question sociale et la question ouvrière. Il peint des hauts fourneaux, des aciéries, les ateliers, les haleurs sur fond d'usine et les grèves, dont la grève au Creusot, son tableau le plus connu et en même temps le plus inconnu. Que veut raconter le peintre par ses tableaux? Est-ce une critique de la modernité ou une critique des conditions de travail des ouvriers, Claire de Compse? Je pense aussi au tableau intitulé « La manifestation Ferrère » de 1911.
Alors, je dirais que Adler s'intéresse plus aux travailleurs qu'au monde du travail. En fait, il là encore, on retrouve cet intérêt pour le peuple. Adler va s'intéresser à la vie des ouvriers au travail et il va donc effectivement réaliser de nombreuses toiles qui ont pour fond, enfin pour cadre, le monde de l'industrie, un monde qui est très dur. Et vous faites référence à la série sur les hauts fourneaux de la Providence lorsqu'il part à Charleroi, donc pour montrer la vie dans le plus important bassin minier de l'époque. Et là, on pense tout de suite à Zola, à son ami Zola. Donc Adler qui va représenter sans concession ce monde. On a notamment avec les hauts fourneaux de la Providence un tableau absolument sidérant, un paysage magnifique mais en même temps inhumain, avec une atmosphère totalement charbonneuse qui engloutit totalement la silhouette des travailleurs qui sont réduits à la taille de fourmis. Un autre tableau au pays de la mine où on voit des ouvriers épuisés sortant, donc remontant en fait du fond. Donc quelque chose qui est sans illusion sur la difficulté, et donc effectivement une forme de critique évidente. On n'est pas dans l'exaltation du progrès, dans une héroïsation du travailleur comme on peut l'avoir souvent à cette époque. Il y a effectivement une forme de distance, et là encore, vraiment ce qui intéresse Adler, ce sont les hommes. Alors, on peut dire une attention aussi au conflit de son temps. Par rapport à la grève au Creusot, ce qui est remarquable et qui est important de souligner, c'est que donc on est en 1899, donc dans ce qu'on a à l'époque la plus grande usine de France, tenue par les Schneider, avec un conflit social qui va durer quasiment une année, et Adler se rend sur place. Donc là encore, il prend le temps de voir, de rencontrer les gens, et il fait ce magnifique tableau, La grève au Creusot, qui a effectivement souvent été mal interprété, qui a été vu comme un tableau révolutionnaire avec une femme
porte-drapeau,
alors, et un drapeau rouge, alors qu'en fait c'est un drapeau tricolore. Et ce qui est tout à fait intéressant dans ce tableau, c'est qu'il reprend des annotations très précises, hein, on voit qu'il a vraiment regardé ce qui se passait, mais en même temps un tableau recomposé, et en fait c'est un tableau qui montre le peuple en marche, le peuple heureux, parce que ce tableau se situe donc c'est un moment très particulier de cette lutte. Les ouvriers qui ont fait appel au gouvernement, qui a rendu une sentence arbitrale instituant des délégués ouvriers. Et en fait, c'est des ouvriers heureux. Et ce que ce tableau montre, c'est cette force du peuple solidaire, en insistant donc sur tous ces gestes de solidarité, mais aussi quelque chose de foncièrement pacifique. On a des femmes, des enfants qui chantent, qui défilent ensemble.
Qui se tiennent la main.
Avec effectivement, comme vous le dites, un énorme travail sur les mains, bras dessus, bras dessous, enfin voilà. Et donc quelque chose qui montre aussi que Adler, c'est quelqu'un qui croit dans la République, qui croit, enfin c'est pas un appel au grand soir, c'est quelqu'un qui croit à la négociation, qui est quelqu'un donc de foncièrement intégré donc à cette Troisième République, qui était donc le sous-titre de l'exposition dans ses précédentes étapes. Et l'autre grève à laquelle vous faites, enfin c'est pas une grève, l'autre manifestation à laquelle vous faites écho, on est également, alors avec une dimension, je dirais, moins mythique, moins allégorique que dans ce premier tableau, la manifestation Ferrer, c'est une manifestation pacifique, après un premier rassemblement, au contraire, qui a fortement dégénéré, où on voit là des gens défiler ensemble, notamment des notables républicains. Donc là encore, un appel à un engagement, mais un engagement non violent, et une solidarité de tous.
Et toutes ces couleurs, ça m'a donné l'impression que cela tranche avec l'imaginaire du même Paris que la photo noir et blanc nous a transmise avec insistance, Claire de Compes.
Alors Adler, effectivement, représente Paris sous toutes ses facettes, à toutes les heures aussi. On a soir de Paris, matin de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre aussi les joies ordinaires. On voit un couple enlacé se rendant au travail, une jeune femme, un moment de grâce saisie au passage. Donc on n'est pas du tout dans une vision misérabiliste, même si on est dans une peinture qui montre qu'il y a des exclus, comme dans la soupe des pauvres ou dans ces tableaux d'inspiration zolienne, je dirais. Et il y a toujours une note d'espoir chez Adler. Dans le tableau auquel je faisais référence il y a quelques instants, au pays de la mine, vous avez deux jeunes enfants au premier plan qui tranchent totalement par leur fraîcheur et la luminosité de la touche avec l'ambiance sombre de cette mine. Donc on voit que Adler, c'est vraiment quelqu'un qui ne désespère jamais. Et comme vous le dites, c'est un homme joyeux, bon, qui va de l'avant.
Alors, qui va de l'avant, même dans la guerre 14-18, il n'en montre pas l'horreur, comme on le voit par exemple dans d'autres peintures de la même époque, par d'autres peintres, je pense à Autodix, mais il montre les effets de la guerre, le vide, un tronc d'arbre esselé dans une vaste plaine recouverte de neige, par exemple, une guerre de laquelle il rapporte des croquis, des photographies et des grandes toiles montrées dans le parcours de l'exposition. Je pense au tableau qui s'appelle le Drapeau passe de 14 et l'armistice qu'il peint en 18. Une partie de l'exposition porte ce titre justement, Un peintre dans la guerre. Qu'avez-vous voulu montrer dans cette section de l'exposition, Claire Decomps?
Alors le titre est très important. C'est un peintre dans la guerre, c'est pas un peintre de guerre. Adler, on l'a dit depuis le début de cette émission, c'est un homme engagé. Il n'a plus l'âge d'être mobilisé, mais pour lui, c'est important de participer à sa manière. Donc, il va tenir une cantine pour les artistes en difficulté. Il va faire une affiche incitant l'arrière à participer à l'effort de guerre, tout en faisant appel à un soldat blessé. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout dans la propagande. Ça, c'est important de le dire. C'est un peintre qui n'est pas du tout belliciste. Et il va montrer donc ses traces de la guerre, à l'occasion donc d'une campagne sur le front comme artiste aux armées. Des dessins qui sont absolument sidérants dans leur simplicité et leur économie, puisqu'il explique qu'il est en mois de février, sous la neige, donc c'est avec quelques traits, quelque chose de très efficace. Il montre les traces et cette désolation, cette fatigue et de cette guerre absurde. Et dans les tableaux que vous citiez, mais qui ont été réalisés après-guerre, notamment dans la mobilisation, ce qui l'intéresse, alors ce tableau c'est Un régiment passe, on ne voit pas ce régiment, on voit donc cette foule qui observe ce qui est en train de se passer, et là c'est les regards qui importent. Les regards des femmes qui sont inquiètes, les jeunes hommes qui sont excités, les plus âgés qui ont connu les guerres précédentes et qui, eux, se doutent que ce ne sera peut-être pas si aisé. C'est ça, Adler. C'est cette sensibilité, mais en tout cas, c'est absolument pas un peintre de guerre.
Et pendant cette guerre 14-18, il va se mobiliser aussi en dehors de la peinture, puisqu'il est à l'origine d'une cantine pour les soldats.
Oui, tout à fait. Pendant toute la guerre, il va servir, je crois, 11 000 repas. Et donc, effectivement, il va très peu produire pendant cette période.
La guerre 14 n'est pas la seule qui sera un drame pour lui. La Seconde Guerre mondiale aussi. Il est, pour ainsi dire, rattrapé par la guerre. En tant que juif, il est arrêté et interné, mais sera sauvé. Une période difficile pendant laquelle il n'a pas cessé de peindre et là encore n'a pas cessé d'espérer. Claire Decomps, c'est ici peut-être l'occasion de parler de son judaïsme ou de sa judéité qui ne prit pas le même sens tout au long de sa longue vie. L'enfance à Luxeuil, l'affaire Dreyfus, certains disent un engagement sioniste et la période de la Shoah.
Alors, c'est un artiste juif, mais qui ne traite pas de thématiques juives d'une manière explicite. Ce qui fait d'ailleurs que pour beaucoup, il n'était absolument pas identifié comme juif. Et en ça, il est assez emblématique d'une génération de juifs parfaitement assimilés et qui vont s'engager dans la société de leur temps. D'ailleurs, souvent, on pourrait dire qu'on a une sécularisation des valeurs juives et que ce n'est peut-être, il y a peut-être un lien entre les deux. Mais en tout cas, Adler reste très discret sur ça, parce qu'on est bien dans cette Troisième République qui va voter les lois laïques de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, l'appartenance juive, finalement, ça relève de l'intime. Donc, c'est quelque chose qu'il n'étale pas sur la place publique. On a juste un témoignage, et ce qui est intéressant, c'est que c'est en Allemagne, à l'occasion d'une exposition, donc un article en 1906, où il dit: je pense souvent qu'il doit y avoir une sorte de relation, que les images de la souffrance sociale m'attirent tellement parce que je suis juif et que mes ancêtres pendant des générations ont tant souffert. Je pense qu'il y a un lien entre son tropisme pour les pauvres et son identité juive.
Tropisme pour les pauvres, mais peut-être pas simplement pour les montrer, mais pour transformer ce regard en une bonté.
En bonté et avec, je pense, le sens d'une forme de justice sociale inspiré de la tzedaka juive, quelque chose de très fort. Alors, quand vous parlez de sionisme, je pense qu'il ne faut pas non plus surinterpréter. Ce qui est certain, c'est que toute sa vie, il a eu des liens avec les milieux israélites et avec les milieux sionistes, mais voilà... faut peut-être pas en faire, on sait pas si, enfin, on pense pas qu'il, enfin, on n'a pas de trace qu'il se soit rendu en Palestine. En tout cas, c'est un homme qui ne nie jamais sa judéité, même s'il ne la met pas en avant. Et en 1940, son monde s'écroule. Il est interdit d'exposer, donc il va démissionner du salon et Pour lui, c'est absolument incompréhensible, surtout vu son parcours, son engagement dans la société de son temps. Et il va continuer à peindre. Il va se raccrocher à ce qu'il peut. Il est assez lucide sur ce qu'il se passe, hein. Mais en même temps, il dit qu'il est trop âgé pour partir, qu'il reste et il dessine. Et
il est interné à Picpus.
Alors, il va effectivement être interné suite à une dénonciation, le 29 mars 1944, et il restera jusqu'à la fin de la guerre. Alors là, quelque part, il a de la chance dans son malheur, puisque Picpus, qui à cette époque donc n'abrite plus que des juifs, hein, puisque les autres malades n'y sont plus, et qui est devenu une dépendance en fait du camp de Drancy, et malgré tout un endroit beaucoup plus vivable, et surtout dans lequel il va pouvoir finir la guerre en étant oublié et sans venir compléter un convoi. Et on voit que durant toute cette période de la guerre, il montre sa souffrance, son désarroi, mais aussi sa volonté de se rattacher à tout ce qui peut donner de l'espoir. Par exemple, à propos de l'étoile jaune en 1942, il va souligner, mais même à l'extrême, toutes les marques de sympathie reçues. Et pour lui, il est évident que les Français sont hostiles à cette politique. Donc vraiment une volonté de faire ce qu'il peut, de se raccrocher à toute étincelle de vie. Et pendant ce séjour, donc, il va représenter ses compagnons d'infortune, donc des vieillards et des incurables. Souvent d'ailleurs dans le jardin de l'hospice, qu'il décrit lui-même comme un endroit très beau, une sorte d'oasis dans la guerre. Il va apporter donc un témoignage sur une facette de la guerre et il va réaliser des différents dessins qu'il exposera en 1948 au Salon, une série de 83 dessins, et nous en présentons à peu près une quinzaine qui sont alors là totalement inédits et présentés pour la première fois au public.
La scène des temps modernes que nous avons évoquée dans la musique que nous avons passée se termine sur la vue de Charlot et de sa fiancée, jouée par Paulette Godard, que l'on voit de dos, main dessus, main dessous, avançant et s'éloignant de la caméra sur le chemin. Cela m'a fait penser à deux choses. Tout d'abord à ces cheminots qui parsèment l'œuvre de Julie Adler sous des noms différents, dont le philosophe. Et ensuite, cela m'a fait penser au dernier tableau présenté dans l'exposition, Paris, vue du Sacré-Cœur, où l'on voit un homme et une femme, aussi bras dessous et de dos, daté comme le film de Chaplin en 1936. C'est l'avenir qu'ils regardent au loin, j'ai l'impression. C'est nous qu'ils regardent et c'est nous qui accueillons leur regard, nous qui sommes transformés par cette œuvre. On a l'impression que, tout comme Bergson, il définit la conscience comme un pont entre le passé et le futur. Je cite Bergson, « Sur ce passé, nous sommes appuyés. Sur notre avenir, nous sommes penchés. » Claire de Combes. Peut-être que nous avons, avec ce tableau, une invitation à réfléchir sur la peinture et sa place dans la société dite moderne. Les fumées des usines sont encore dans ce tableau, au premier plan, empreint d'une grande poésie et d'une grande sérénité.
Alors, vous faisiez allusion dans la première partie de votre question à ce thème du cheminot qu'il va être traité entre, je dirais, 1898 et 1911, qui est vraiment une série particulièrement originale et riche, où en fait, il s'intéresse à une personne, un personnage marginalisé qui suscite plutôt la peur et l'inquiétude et qui au contraire pour lui est symbole de liberté et parfois même de joie, comme on le voit dans certaines de ses images, avec une figure très polysémique qui peut évoquer le juif errant, peut-être aussi le colporteur de sa Franche-Comté et de son Alsace d'origine, voilà, et mais aussi donc cet homme libre, cet homme qui chemine, sans doute aussi peut-être une métaphore de la condition de l'artiste et en tout cas de sa propre existence. Donc tout à fait, ce cheminot et ce couple avec, sur cette dernière grande toile Paris vue du Sacré-Cœur, alors qui fait dos donc au Sacré-Cœur qui était le symbole de la répression de la Commune et qui regarde vers Paris, un paysage urbain magnifique, en même temps je dirais baigné de brume, avec une tonalité extrêmement poétique, et on retrouve donc C'est un thème récurrent dans l'œuvre d'Adler, ces personnages de dos qui nous invitent à nous plonger dans son œuvre. Et là, ça nous paraissait vraiment... Alors déjà, pour la petite histoire, il faut savoir que c'est de ce tableau que tout est parti. Ce tableau qui se trouvait à Dole, qui a incité donc ma collègue Amélie Lavin à entreprendre toute cette recherche sur l'artiste. Et d'autre part, il nous semblait que c'était une très belle manière d'inviter le spectateur à l'issue de ce parcours, finalement, à prendre le temps de s'arrêter, de regarder et de regagner la ville.
Merci Claire Decomps pour ce voyage au pays de la couleur et de la bonté. Merci de nous avoir éclairé par vos commentaires sur cette œuvre à la fois simple et subtile. L'exposition Jules Adler, le peintre du peuple, est vraiment très belle, très riche et très profonde. Une exposition dont on sort transformé, et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais avec le sentiment de se sentir meilleur, peut-être parce que l'on se sent invité par l'un des cheminots dont vous avez parlé. Avec lui, on va, sans aller ici ou là, on va au-devant d'un nouvel espoir, un éternel chemin, une errance infinie, et nous sommes avec lui, piétons qui allons nulle part, mais en tout cas plus loin. Il nous laisse au bord de la route, il nous laisse, selon la belle expression de Rilke, quelque part dans l'inachevé. C'est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 23 février prochain. Merci encore Claire Decomps pour ce beau travail.
Merci Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Manon Houssin, à la réalisation d'Annie Journeau, qui se prépare déjà à aller voir l'exposition. N'hésitez pas à podcaster l'émission pour la réécouter sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.